Nous en venons maintenant à la Seconde Guerre mondiale et les malheurs de ce peuple ne font que continuer ou empirer, avec en particulier les effets du pacte germano-soviétique. La période qui va jusqu'au massacre de Katyn au printemps 1940 est une période dramatique pour la Pologne, dont le souvenir est encore présent, c'est encore une brûlure.
En septembre 1939, la Pologne est occupée par l'Allemagne et par les troupes soviétiques. C'est la conséquence du pacte germano-soviétique. D'ailleurs, pour revenir à Vaïda, son film sur Katyn commence comme ça. Vous avez un pont et de chaque côté du pont, les civils fuient et les uns disent aux autres « N'allez pas par là, il y a les Allemands ». Et les autres disent « Non, non, n'allez pas par là, il y a les Russes ». Et voilà, c'est la scène symbolique du film qui résume le dilemme de la Pologne, occupée, divisée. C'est un nouveau partage de la Pologne, c'est ainsi que c'est vécu. De nouveau, c'est plus la Prusse et la Russie, c'est l'Union soviétique et l'Allemagne nazie, et qui se partagent la Pologne.
Cela explique aussi pourquoi les Russes ont pu pendant si longtemps expliquer que c'était les Allemands qui étaient responsables du massacre de Katyn. Vous allez nous parler de ce moment, car il est fondamental dans la mémoire de la Pologne, bien sûr. Mais d'abord, cette archive de France Actualité en 1943, à l'époque de Vichy, sur la découverte du massacre de Katyn, et puis ensuite je vous proposerai un commentaire de Bronislav Geremek, que vous avez évoqué tout à l'heure, ce grand historien notamment de la pauvreté en Occident. Geremek, à propos de la reconnaissance du massacre de Katyn, très tardive par les Russes, puisqu'elle ne survient que le 3 avril 1990.
C'est ici, près de Smolensk, dans cette clairière de la forêt de Katyn, que l'on a découvert les corps de 10 000 officiers prisonniers de l'armée polonaise assassinés par les soviets. Près d'un millier de corps ont déjà été exhumés. Une commission composée d'éminents médecins légistes et experts criminologistes européens, grâce aux lettres et journaux découverts sur les cadavres et d'après l'étude des décompositions des corps, a pu établir que les exécutions remontaient au mois de mars-avril 1940, c'est-à-dire plus d'un an avant le conflit germano-soviétique. Tous ont été exécutés de la même façon, un coup de revolver dans la nuque. On remarque les mains liées. Un prêtre polonais célèbre un requiem. 70% des corps, parmi lesquels se trouvent plusieurs généraux, ont déjà pu être identifiés.
Ça peut paraître assez incompréhensible qu'un drame d'il y a 50 ans joue encore un rôle très important dans la vie actuelle polonaise, mais c'est ainsi. C'est resté une plaie. Il s'agit d'une satisfaction morale, mais il s'agit aussi de changer le climat moral autour des rapports polono-soviétiques.
On comprend bien, Jacques Rucknick, que la Pologne se rappelle comme une brûlure de Katyn, puisque les Russes ont systématiquement décidé de mettre à mort des élites. Il y avait toutes sortes d'élites intellectuelles, de professeurs, de généraux, en les tuant systématiquement. L'archive dit 10 000, mais en réalité, on semble être allé plutôt jusqu'à 20 000.
Pour les Polonais, cette disons liquidation des officiers polonais et la façon dont ils ont été exécutés, c'est-à-dire
un par un,
donc il y a un côté très délibéré, n'est-ce pas ? C'est perçu comme une tentative d'extermination de l'élite de la nation. Et l'élite de la nation, c'est très important, précisément pour un pays qui a perdu son État pendant si longtemps. Et donc ça, c'est une entreprise de destruction par un régime totalitaire, le régime soviétique, qui comprend que pour établir sa mainmise, il doit détruire les élites. Et bien sûr, l'Allemagne nazie avait un raisonnement analogue. Détruisez les élites en parallèle, et pas seulement des élites d'ailleurs, et ensuite l'extermination de masse qui a eu lieu de la population polonaise et de population juive. Il y a eu 3 millions de Polonais non-juifs et 3 millions de juifs exterminés sur le territoire polonais.
6 millions de morts, voilà. Effectivement, on comprend que...
Donc, il y a cette horreur-là, mais il y a le fait qu'elle soit commise simultanément, ou en parallèle, au moins pendant cette période, 39-41, par les deux voisins, par les deux puissances totalitaires. Et donc cette idée que voilà, la Pologne est le lieu par excellence où l'enjeu du combat contre les deux totalitarismes se focalise. Et donc tous les débats historiographiques ensuite, et les débats, les questions mémorielles bien sûr, renvoie à cette dualité, à cette simultanéité, dans quelle mesure peut-on les comparer, dans quelle mesure ils étaient complices, etc., etc.
Et ça pose la grande question de l'antisémitisme polonais, que j'évoquais en commençant, et ces lois mémorielles auxquelles il faut revenir, cette loi en particulier qui a été adoptée, ensuite quelque peu adoucie, mais qui reste significative d'un état d'esprit contemporain. On n'a pas le droit de reprocher à la nation,
oui,
d'avoir...
Il y a eu cette...
On a eu cette tentation en France, mais très très brièvement, à propos de la colonisation.
Déjà, il y a tout le problème de... faut-il légiférer sur l'histoire ?
La réponse est non.
Et la réponse de l'historien que vous êtes, c'est de préférence non. Mais évidemment, quand vous le faites, ça comporte des risques. Et là, on a vu les dérapages. C'est-à-dire que il y a une loi qui est introduite, donc qui a été votée au début de
cette année,
enfin qui remonte en fait à l'année dernière, 2017, et où on veut punir toute personne qui considérait que les Polonais sont responsables ou co-responsables des crimes commis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Si la loi s'était contentée de dire nous n'acceptons pas le terme de camp d'extermination polonais. Puisque souvent, d'ailleurs, dans les livres, et c'est à juste titre, les Polonais s'indignaient du fait contre camp d'extermination polonais. Non, c'était les camps d'extermination de l'Allemagne nazie en Pologne. Et donc, bien entendu, ils avaient raison sur le premier point. Deuxième point, ensuite, toute personne qui suggérerait que les Polonais ont été... où certains Polonais ont été complices ou qui avaient participé, alors là, les historiens, bien entendu, se rebellent, parce qu'on a vu quand même, depuis une vingtaine d'années surtout, les travaux de Jan Gross, mais pas seulement, toute une série d'historiens qui ont mis en lumière ce qui s'était passé pendant la guerre. Il y avait en particulier le cas maintenant célèbre de Jedwabne, n'est-ce pas, de cet endroit, cette ville, où les Polonais, pas les Allemands, les Polonais ont rassemblé toute la population juive dans une ferme et y ont mis le feu. Et donc, il y avait là, si vous voulez, des actes de, voilà, d'agression, de vengeance antisémite par les Polonais. Et donc, voilà, ce genre de travaux serait maintenant interdit. Mais la loi, fort heureusement, a été révisée face aux réactions internationales en Europe, mais aussi aux États-Unis, en Israël en particulier.
On peut citer le propos d'une écrivaine qui était connue, Sofia Kossak, qui écrivait en 1943 « Nos sentiments concernant les Juifs n'ont pas changé. Nous ne cessons pas de voir en eux les ennemis politiques, économiques et idéologiques de la Pologne. Les Juifs ne vont-ils pas se purifier dans l'actuel holocauste de leur image d'éternels errants et de parasites gênants ?» C'est évidemment toujours la question de la représentativité d'une citation, mais celle-ci est tout de même glace le sang.
Oui, bien entendu. Et tous ceux qui ont vu le film de Lanzmann, Shoah, bien sûr, savent comment ces paroles pouvaient se traduire en
actes. Un film qui,
acte.
Qui joue un rôle très important aujourd'hui encore dans la mémoire oui. des Polonais sur eux-mêmes et des autres sur la Pologne.
Oui, bien entendu, parce qu'il est basé sur des entretiens, y compris des entretiens donc avec des participants polonais ou avec des juifs polonais qui ont survécu au camp. Et donc il y a cette... Si vous voulez, il y a une espèce de concurrence victimaire. Les Polonais se considèrent comme les plus grandes victimes. Voilà. Nous sommes par essence les victimes de l'histoire. L'histoire ancienne que nous avons évoquée, mais aussi l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
Ce n'est pas faux.
Et les partages. Donc, voilà. Mais il y a cette idée que nous sommes les victimes et le fait que l'Holocauste soit reconnu comme, disons, pour toute l'Europe, comme le moment symbolique où la barbarie nazie a entrepris, n'est-ce pas, un génocide à une telle échelle, et que donc les Polonais, et voilà, il y a cette concurrence mémorielle que représentent d'ailleurs les commémorations, hein, l'insurrection du ghetto de Varsovie d'un côté, l'insurrection de Varsovie un an après, en 44, en Pologne. Certains commémorent plutôt l'un ou plutôt l'autre, et il faut commémorer bien entendu les deux. Mais et voilà, cette concurrence mémorielle s'exprime souvent au moment de ces commémorations.
Et maintenant que le communisme est tombé, on rappelle plus volontiers qu'auparavant encore comment l'armée soviétique a choisi de rester pendant un long moment aux portes de Varsovie pour laisser les nazis accomplir leur œuvre de mort dans la capitale et la détruire.
Absolument. Donc vous avez l'été 44, l'armée rouge est de l'autre côté de la Vistule. Ils voient l'entreprise de destruction de Varsovie, hein, parce que l'insurrection de Varsovie se solde par une répression terrible, une démolition de la ville. La ville a été détruite, n'est-ce pas ? Et l'armée rouge est là, mais n'intervient pas. Et évidemment, on ne peut s'empêcher de penser que du point de vue soviétique, c'est dire l'écrasement de cette insurrection et de ceux qui y participent nous rendra la tâche peut-être plus facile ensuite. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Vous voyez comment, aux actualités françaises, sur les écrans de nos cinémas, 9 ans plus tard, le 27 août 1953, on donne à connaître la manière dont Varsovie fête la reconstruction de son centre. Je pense que vous allez apporter quelques nuances à la manière dont cela est évoqué.
Varsovie, ville martyre, la plus détruite de la dernière guerre, renaît de ses cendres. La place du Vieux Marché réapparaît aujourd'hui telle qu'elle était, avec ses mêmes boutiques, ses mêmes enseignes, pieusement et fidèlement reconstituées. Pour son inauguration, toute la population a participé en présence du président Boleslav Bierut, à de grandes réjouissances auxquelles ont pris part dans l'enthousiasme toutes les formations sportives de la capitale polonaise. Varsovie a oublié les drames accumulés tout le long de son histoire mouvementée. Varsovie montre aujourd'hui un visage optimiste.
Un an plus tôt, Jacques Rubnik, Miloš, le prix Nobel futur que vous évoquiez, a publié un essai fameux qui s'appelle « La pensée captive », on est en 1952, qui ne donne pas exactement la même impression que ce reportage d'actualité française.
Ah oui, pas du tout. Bon, Miloš s'intéresse à la façon dont certains intellectuels ont pu être attirés, cooptés par la promesse du communisme après la guerre. Là, on voit sous une forme assez particulière, dans votre extrait, le discours de la reconstruction.
Les plans quinquennaux.
Et ça, c'était un grand thème, n'est-ce pas, du communisme. Nous construisons le socialisme et nous reconstruisons le pays. Donc les deux thèmes étaient très au cœur, disons, du discours du Parti communiste à l'époque. Quand j'entends là le commentateur dire « Varsovie montre son visage optimiste », nous sommes en 1953, on est en plein dans la nuit noire stalinienne, c'est quand même assez singulier. Et il faut donc rappeler que donc pendant cette période, c'était la mainmise totale du système soviétique sur les pays d'Europe centrale et orientale, que les partis communistes et le système policier menaient une répression terrible contre tous les opposants, y compris d'ailleurs envers les communistes considérés comme potentiellement récalcitrants. Gomulka, le leader communiste polonais, était à l'époque emprisonné, etc. Et il n'a refait surface qu'en 1956. Soit dit en passant, c'était un des rares de la direction communiste d'avant-guerre qui est survécu, parce que tous ceux qui étaient à Moscou ont été exterminés. Lui avait la chance de se trouver dans une prison polonaise, et grâce à ça, il a pu être donc l'homme qui pouvait porter le drapeau du communisme polonais en 1956, où il est devenu le symbole donc de ce qu'on appelait le dégel, la déstalinisation.
Et alors où en est la Pologne, Jacques Rubnik, avec la mémoire, avec cette mémoire du communisme? J'entends qu'on a créé des institutions pour dénoncer les crimes de la période antérieure.
Les Polonais ont le sentiment que, disons, le traumatisme, la répression, les crimes commis de la période communiste ne sont pas suffisamment pris en compte en Occident, qu'on n'a pas suffisamment pris la mesure de ce qui s'était passé, du traumatisme, enfin de ce que cela a représenté, et que à cette fin, ils ont créé un institut de la mémoire nationale qui est là à la fois dépositaire des archives de la période communiste, y compris des archives de la police, etc., et qui a pour vocation, en quelque sorte, de transmettre cette mémoire douloureuse de la période communiste aux nouvelles générations. Bien entendu, l'usage de ces archives, l'usage de certains de ces débats, peut être aussi instrumentalisé politiquement. On devine bien que si vous avez une institution d'État qui est chargée d'être le dépositaire et le garant de la mémoire nationale, bon, je ne dis pas que nous sommes dans Orwell, mais enfin, c'est voilà, il y a ce risque, disons, de l'instrumentalisation de l'histoire.
Nous avons connu ce débat en France à l'époque du président Sarkozy. J'observe qu'en Pologne, le directeur du musée de l'armée de Gdansk a été limogé pour ne pas avoir mis assez en avant l'héroïsme polonais. En même temps, ils ont créé un musée des justes. Alors maintenant, il faut pour finir, Jacques Rupnik, que nous évoquions, puisque nous parlons de la mémoire en Pologne, des brûlures de l'histoire, que nous évoquions la période de la libération progressive avec Solidarność. Rarement un pays, une démocratie populaire a autant résonné en Occident que ce qui s'est passé en Pologne.
C'est vrai, il y a eu les trois grandes crises, il y a une petite compétition en Europe centrale qui a le plus contribué à la désagrégation du soviétisme en Europe de l'Est. Les Hongrois disent bien sûr la révolution de 56 a été le précurseur. Les Tchèques rappellent que le printemps de Prague 68 avait démontré en quelque sorte l'impossibilité d'une réforme de l'intérieur.
Poznań en Pologne.
Et il y a eu en 56 aussi déjà la Pologne, mais évidemment les Polonais considèrent que le vrai tournant, eh bien, c'est 80, c'est Solidarność, c'est la première fois, c'est le plus grand mouvement social de l'après-guerre en Europe tout court, pas seulement en Europe de l'Est. Et c'est un grand mouvement ouvrier contre le pouvoir du parti ouvrier unifié polonais. C'est ainsi que s'appelait le parti communiste, qui n'était pas vraiment un parti, comme on disait. Il n'est pas vraiment ouvrier, puisque les ouvriers se révoltaient contre. Il n'était absolument pas unifié, puisqu'il faisait des purges régulièrement. Et certains avaient des doutes s'il était vraiment polonais. Mais bref, Solidarność incarne cette idée de non seulement de la révolte ouvrière, les chantiers navals de Gdańsk, contre le pouvoir qui se réclamait de la classe ouvrière, mais ensuite qui s'est élargi à toute la société, car le syndicat Solidarność représentait 10 millions de personnes.
Et dès ce moment-là, il n'a pas cessé de célébrer ses propres anniversaires, puisque la révolte de Gdańsk de 70 est évoquée en 80, en 82, et crée de nouvelles manifestations.
C'est ça, Solidarité réprimées. Fait suite, bien sûr, à une série de crises de révolte ouvrière sur la côte balte en décembre 71, puis 76, Radom et Ursus. C'est là qu'est né, d'ailleurs, dans le sillage de cette grève, le comité de défense des ouvriers, c'est là que les dissidents se rapprochent de la classe ouvrière. Et c'est cette alliance, dissidence, classe ouvrière, qui sera un ingrédient majeur de Solidarność. Il faudrait ajouter un troisième facteur, l'Église catholique, bien entendu.
Avec les grands noms de Walesa, d'Adam Michnik et d'autres qui émergent à ce moment-là.
Alors c'est là que se fait. Voilà, Walesa incarne le leader issu de la classe ouvrière.
Et qui deviendra le premier président de la République après la chute du mur.
Qui est allié à des intellectuels dissidents, dont Michnik, Courogne, Guéremec, bon, les noms de la dissidence. Et il y a le troisième élément qui est l'Église catholique, très important, puisque la grève dans les chantiers navals à Gdansk commence par la prière. Tous les ouvriers à genoux, la prière. Et donc, la classe ouvrière que les communistes prétendaient représenter était désormais, tout le monde le voyait, représentée par l'Église catholique. Et il y avait un pape polonais, qui, bien entendu, le pape Jean-Paul II, l'évêque de Cracovie. Et donc, lui incarnait le pays réel par opposition au pays légal qui était le Parti communiste.
Et voici un reportage sur une manifestation interdite naturellement, destinée en 82 à commémorer les émeutes de 1970 et les morts qui étaient survenus.
Il semble donc bien que Wałęsa ait été soustrait afin d'éviter qu'il prenne la parole au cours de la manifestation prévue à Gdansk aujourd'hui à la mémoire des victimes des émeutes de 1970. En l'absence de Wałęsa, la manifestation a pourtant bien eu lieu. En voici les images.
Toute la matinée, la milice avait réussi à empêcher les ouvriers des chantiers navals de Gdansk de s'approcher du monument aux morts des émeutes de 70. Mais à 14h, de petits groupes parvenaient à briser le dispositif policier. 200 manifestants se rassemblaient ainsi au pied de ce monument, symbole des luttes ouvrières de la Pologne et dont la construction avait été la première revendication des ouvriers des chantiers navals durant l'été 1980. Au cri de « Solidarité vivra », ils ont réussi à occuper pendant plusieurs heures cette place interdite avant d'en être chassés par les OMO, les unités anti-émeutes de la police polonaise. Pendant ce temps, d'autres groupes de manifestants qui n'avaient pu gagner le monument aux morts se rassemblaient dans la ville, notamment près de la gare centrale, et criaient eux aussi « Solidarité vivra ».
On voit, Jacques Rupnik, l'importance de la personnalité de Wałęsa, qui a eu le prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, il est toujours là. Quelle est sa place dans la mémoire collective de ces temps-là?
Je crois que tous les Polonais reconnaissent son rôle à la fois réel et symbolique pendant les années Solidarność, pendant les années aussi de résistance après le coup d'État de Jaruzelski de décembre 81. Il est ensuite devenu président. Et Solidarité s'est divisée, c'était le moment de la division. Donc après, l'unité, bien sûr, elle est remise en question et on la retrouve plus. Et donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que Wałęsa s'oppose au gouvernement actuel, s'oppose à sa politique, au reniement des libertés conquises. Et donc, intéressant de voir Wałęsa, ancien leader syndicaliste, rejoindre le camp des libéraux pour défendre les libertés.
Ils n'ont pas la même mémoire, en fait, de ce temps-là.
Ils n'ont pas la même mémoire de solidarité, voilà.
Alors aujourd'hui, où l'Église est tellement importante, encore, comment est-ce que, quel rôle joue-t-elle par rapport à cette mémoire? Est-ce que la mémoire du pape polonais demeure essentielle dans les sensibilités collectives, dans les souvenirs?
Ce qu'il y a, je crois, de nouveau, c'est que dans le glissement illibéral, comme on dit maintenant, antilibéral, autoritaire, du pouvoir, vous avez non seulement le discours populiste, les élites post-89, ex-communistes, ex-dissidents, qui ont en quelque sorte trahi la révolution, et nous sommes les vrais porteurs de la révolution, il y a maintenant la tentative de donner à ce discours populiste un substrat culturel, plus profond. C'est la nation et c'est l'Église. Et donc l'idée que la Pologne chrétienne, la Pologne qui défend certaines valeurs, la nation qui a une mission aussi, il y a un discours, il y a une dimension messianique, n'est-ce pas, là-dedans. Ça, c'est un discours qui revient, où l'Église joue un rôle plus important que dans la période précédente sur toute une série de thèmes, qu'il s'agisse de l'enseignement, par exemple, qu'il s'agisse de la loi sur l'avortement. Il y a eu des tentatives de la modifier et le pouvoir a dû reculer face à des mobilisations. Mais on voit que l'influence de l'Église est très importante. Et on le voit dans les commémorations. On voit maintenant que même les commémorations de novembre 1918, de l'indépendance de la Pologne, sont très liées à ce discours, disons, voilà, d'une mission de la Pologne. Nulle part en Europe, vous trouverez un président de la République entouré des membres du gouvernement et qui font célébrer une messe « Jésus, roi de Pologne », n'est-ce pas? Et donc l'idée que, et vous avez eu tout récemment, l'année dernière, n'est-ce pas, l'Église, ou une partie de l'Église, a organisé une chaîne tout autour des frontières de la Pologne pour protéger la Pologne, protéger la nation et protéger l'Europe chrétienne.
Il y a peu de pays d'ailleurs où un président, un chef de l'État, comme l'a fait Duda, dirait la politique historique devrait être réalisée en tant que pièce maîtresse de notre position dans l'espace international.
La Pologne maintenant, alors il y a le discours du repli sur la nation homogène chrétienne, mais donc il y a une vocation à contrer le libéralisme non seulement en Pologne, mais au niveau de l'Europe. et c'est là l'alliance avec Orban, bien sûr, est importante. Hein. Quand le PiS, le parti au pouvoir, s'est fait élire, c'était avec le slogan « Nous ferons Budapest à Varsovie », donc nous allons prolonger ce que fait Orban en Hongrie. Et l'idée que il y a cette Europe libérale, décadente, faible, qui est en perdition, et face à la crise migratoire, nous sommes, en quelque sorte, l'Europe du recours. Nous sommes l'autre Europe, mais celle qui est le recours, qui défend sa culture, sa civilisation, qui protège l'Europe contre les menaces, contre l'invasion, en particulier venue du sud de la Méditerranée.
Et pour comprendre cette ambition, pour comprendre cette fierté, pour comprendre peut-être ces illusions, il est clair qu'il fallait, merci d'y avoir contribué Jacques Rupnik, qu'il fallait évoquer le poids formidable de l'histoire dans le cas de la Pologne. Je voudrais redire que vous avez l'intention de publier un livre en tchèque, mais qui va être traduit, j'espère bien, par vous ou par quelqu'un d'autre, « L'Europe centrale comme un oiseau avec les yeux derrière la tête », formule de Borges. Je voudrais évoquer l'autre Europe, « Crise et fin du communisme », paru chez Odile Jacob et repris en point, seuil, en 1993. Et puis, il faut rendre hommage toujours, quand on parle de la Pologne, à Daniel Beauvois, dont le maître livre s'intitule « La Pologne des origines à nos jours », paru au Seuil en 2010. Vous pourrez trouver la liste des documents sonores que nous avons utilisés sur notre site, et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Nous évoquions il y a un instant les migrations. Nous ne nous éloignerons pas beaucoup de ce thème, puisque samedi prochain, je conduirai nos auditeurs et nos auditrices jusque dans l'Antiquité pour parler de l'exil et de l'asile. Alors, mon invité sera Maurice Sartre. Et puis lundi matin, vous retrouverez à 9h la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin qui consacrera sa semaine au lieu d'écrivain, au lieu d'écrivain entre leur œuvre et l'histoire. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux et réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Florent Bujon, à la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Anne Delavaux. Dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.